Elle ressemble à quoi, la mobilité de demain? C'était ma grande question pour Aurélien Bigot, chercheur spécialisé dans la transition énergétique des transports et associé à la chaire énergie et prospérité. Avec Aurélien, on a parlé de l'histoire de la mobilité et bien évidemment de la mobilité aujourd'hui. On a beaucoup parlé de pourquoi certains modes étaient dominants, la voiture bien évidemment, mais aussi le vélo chez nos voisins néerlandais. On a aussi parlé de ces nouveaux modes émergents qui détonnent sur les routes. À la question du futur désirable, c'est finalement une approche pragmatique qu'Aurélien nous propose. Faire en sorte que chaque mode de transport soit utilisé là où il fait le plus de sens. Je ne vous en dis pas plus et je vous invite vraiment à écouter l'épisode jusqu'au bout. C'est parti! Bonjour Aurélien, bienvenue au micro de Dessine-moi un futur désirable.
Bonjour et merci de l'invitation.
Je suis particulièrement ravie de t'avoir aujourd'hui. Je dois dire que j'ai découvert en fait tes travaux sur la décarbonation quand j'ai eu l'occasion de travailler sur ce sujet à titre pro, donc très contente de t'avoir aujourd'hui et de pouvoir développer ensemble ce sujet, ce vaste sujet de la mobilité des transports.
Ravi aussi, merci. En effet, il y a de quoi dire parce que le sujet est vaste en effet.
Exactement, on a une heure ensemble et je me suis dit, oulala, de quoi on va parler? Enfin, vous inquiétez pas, on a plein de trucs à discuter, mais c'était super compliqué de vraiment trouver un axe parce que je voulais absolument tout évoquer et c'est pas possible. Donc, ce que je te propose pour commencer assez classiquement, c'est de te présenter de la manière de ton choix.
Je suis chercheur sur la transition énergétique des transports. J'ai fait ma thèse sur ce sujet-là, qui explorait les différents moyens qu'on a en France pour atteindre nos objectifs climatiques, avec différents aspects qui sont étudiés dans la thèse, à la fois les aspects temporels de la transition, voir comment nos émissions ont évolué par le passé, comment on peut se projeter du coup dans un avenir où on baisse très fortement les émissions. Ensuite, un deuxième aspect qui concerne les leviers de transition, donc des explorations entre technologie et sobriété, pour voir ces leviers, comment on peut réduire les émissions. Et puis, un troisième aspect de la thèse aussi, et de son sous-titre, c'est exploration entre accélération et ralentissement, pour voir les aspects de vitesse des mobilités, comment ça influence nos mobilités, et du coup aussi les émissions. Et donc ça, cette thèse, je l'ai finie fin 2020, et ensuite j'ai fait un petit peu plus d'un an à l'ADEME sur les scénarios de prospective transition 2050 pour explorer aussi différentes manières d'atteindre nos objectifs climatiques. Donc c'était un travail à l'échelle de l'ensemble des secteurs de l'économie pour voir les différentes sources d'émissions, aussi comment on peut capter des émissions pour atteindre la neutralité carbone. Et puis désormais, depuis début 2022, je suis chercheur indépendant, toujours associé à une chaire qui s'appelle la chaire énergie et prospérité. Je continue mes travaux de recherche et de vulgarisation aussi, parfois sur ces aspects de transition des mobilités.
Super, merci. Pour rentrer directement dans le vif du sujet, c'est quelque chose que tu as donc évoqué dans ta thèse. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter d'où on vient en termes de mobilité? Quelles ont été les grandes étapes de développement? Tu parlais d'accélération et de ralentissement. Est-ce que tu peux nous faire un panorama pour commencer?
Oui, alors, ce qui est intéressant quand on regarde cette évolution passée, c'est qu'il y a eu beaucoup de nouveaux modes de transport, finalement, qui se sont développés depuis 2 siècles. Et qu'il y a 2 siècles, notre mobilité, finalement, elle était essentiellement dominée par la marche. Il y avait également un petit peu de transport attelé. Mais la marche dominait très largement les mobilités. On se déplaçait de l'ordre d'une heure par jour et par personne en moyenne. C'est de l'ordre de 3 à 4 déplacements, mais du coup, des déplacements à une échelle assez locale, à l'échelle du quartier, à l'échelle de la ville, etc. Parce que du coup, avec une heure environ de marche par personne et par jour, eh bien, c'est de l'ordre de 4-5 km, disons, qui devait être fait en ordre de grandeur. Et puis, si on regarde comment est-ce que ça a évolué sur les dernières décennies ou depuis ces 2 siècles, eh bien, finalement, il y a eu la création, le développement de modes de transport beaucoup plus rapides que la marche. Donc, il y a eu dans un premier temps, alors le transport attelé a été accéléré déjà dans un premier temps. Il y a eu le développement du ferroviaire à partir de la première moitié du 19e siècle, puis le développement du vélo, puis l'arrivée de la voiture à la toute fin du 19e siècle, qui s'est développé essentiellement à partir du début des années 50, donc finalement plus une bonne cinquantaine d'années après sa création, finalement, cette phase d'expansion de la voiture est arrivée essentiellement sur la seconde moitié du XXe siècle. Et en gros, en 1950, on avait une voiture pour 25 habitants en moyenne en France.
Okay.
Et puis aujourd'hui, on est plutôt, depuis le début des années 2000, on a une voiture pour 2 habitants en moyenne. Donc on a eu ce développement de la voiture extrêmement fort, qui a amené à une accélération du coup très forte par rapport aux mobilités qu'on avait avant, essentiellement parce que ça a remplacé la marche, un mode de l'ordre de 10 fois moins rapide. Et du coup, en fait, cette accélération, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on n'en a pas vraiment profité pour passer moins de temps dans les transports. C'est-à-dire qu'en général, quand on cherche à aller plus vite, c'est pour gagner du temps. Mais en fait, sur longue période, on a plutôt profité de ces gains de vitesse pour aller plus loin, accéder à un territoire, à un territoire plus vaste, à des activités, du coup, potentiellement plus loin de notre domicile ou éloigner le domicile, finalement, de nos activités. Et donc, finalement, aujourd'hui, on se déplace toujours en ordre de grandeur à peu près 1 heure par jour et par personne. On fait toujours de l'ordre de 3 à 4 déplacements par jour et par personne, en comptant qu'un aller-retour, c'est compté comme 2 déplacements. Mais par contre, comme on a des modes de transport de l'ordre de 10 fois plus rapide en moyenne, eh bien on fait des distances de l'ordre de 10 fois plus élevées qu'il y a 2 siècles. Donc aujourd'hui, si on ramène à la fois les mobilités de courte et longue distance à des kilométrages par jour, en moyenne on est environ autour des 50 km par jour et par personne en France actuellement. Il y a un petit peu plus qui est fait sur les mobilités du quotidien, un petit peu moins sur les mobilités à longue distance, mais donc on a finalement une sorte d'hypermobilité qui s'est développée via une accélération très forte de nos modes de transport. Finalement, une évolution dans laquelle la voiture a pris vraiment la place largement dominante dans ces mobilités.
Donc en fait, on a fait un x10, si je résume, en termes de kilomètres parcourus entre 1850 et aujourd'hui.
Exactement, en termes de vitesse et du coup, 2 kilomètres parcourus.
Ouais. Ouais. Et donc tu parlais de la place prépondérante de la voiture. Finalement, qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que la voiture a cette place-là dans notre société et dans nos habitudes ?
Alors on peut citer différents éléments. Alors à la fois, il y a les avantages qu'on peut voir de manière intrinsèque à la voiture, en tout cas quand on la compare à d'autres modes de transport, à la fois le fait que c'est un mode de transport qui est rapide, qui permet des trajets de point à point, étant donné que le réseau routier est très maillé sur le territoire par rapport au transport en commun, par exemple, il n'y a pas besoin de temps d'attente ou d'aller à une station, etc., d'avoir différents trajets en un, quelque part, on a directement du lieu de départ à la destination. Donc cette flexibilité aussi que ça peut apporter. Et puis, le confort que ça peut apporter, donc ça c'est aussi des arguments sur lesquels finalement les promoteurs de la voiture ont pu s'appuyer pour appuyer son développement. Ensuite, ce développement a été rendu possible quelque part parce qu'il y a une hausse du niveau de vie, sans quoi finalement on n'aurait pas eu il y a 2 siècles ou même il y a 1 siècle les moyens pour que l'ensemble ou une grande partie de la population ait accès à la voiture. Il y a aussi le fait qu'on a eu accès à une énergie peu chère et abondante, essentiellement le pétrole du coup qui a permis aussi ce développement de la voiture, le fait qu'on ait développé un réseau d'infrastructures extrêmement vaste, donc ça a été aussi un accompagnement finalement des politiques publiques qui s'est fait notamment sur les infrastructures mais aussi sur d'autres aspects de fiscalité, etc., finalement d'encouragement aussi de l'industrie automobile par exemple. On peut citer aussi en fait le fait qu'une fois qu'on développe la voiture dans nos mobilités, en fait, il y a des sortes de cercles vicieux, on peut les voir comme ça aujourd'hui, en tout cas quand on cherchait à promouvoir la voiture, on pouvait appeler ça des cercles vertueux, mais aujourd'hui, de développement à la voiture, finalement, c'est que quand on développe plus d'infrastructures, ça encourage davantage le recours à la voiture, du coup, l'aménagement du territoire se fait autour de la voiture, donc finalement, un aménagement qui s'est beaucoup étalé, qui s'est beaucoup dispersé, ce qui devient assez défavorable finalement aux autres modes de transport comme la marche et le vélo qui sont plus lents, donc qui font plutôt des plus courtes distances, donc le fait d'avoir des distances plus longues, ça va défavoriser aussi, ça va marginaliser d'autres modes de transport comme la marche et le vélo, et le fait de s'être beaucoup dispersé sur le territoire, ça fait que les transports en commun sont plus difficiles à mettre en place parce que les transports en commun sont des transports plus massifiés et du coup il vaut mieux qu'il y ait une certaine densité de population, une certaine densité des flux de déplacement si on veut avoir des lignes de transport en commun qui sont efficaces. Donc finalement, cet aménagement du territoire a été fait par la voiture quelque part. On n'aurait pas eu un étalement aussi fort s'il n'y avait pas eu la voiture. Et pour la voiture, parce qu'une fois qu'on est un peu prisonnier de cet aménagement du territoire, en tout cas une fois qu'on s'est étalé, dispersé, etc. sur le territoire, eh bien la voiture est le mode de transport qui répond le mieux finalement aux besoins de la population dans ce type d'aménagement-là. Et donc les modes de vie se sont aussi adaptés à cette évolution-là, c'est encore un autre facteur qu'on peut rajouter à ce développement de la mobilité. Du coup, nos programmes d'activité aujourd'hui sont pour beaucoup, pour une grande partie de la population, hein, pas forcément tout le monde, mais pour beaucoup, sont dépendants finalement de la voiture pour pouvoir répondre à ce programme d'activité. Donc c'est un certain nombre déjà d'éléments qu'on peut évoquer. Et puis dans cette transition et dans les facteurs un peu de dépendance, il y a aussi les aspects culturels qu'on peut évoquer. La voiture, c'est pas que un objet de mobilité qu'on utiliserait uniquement de manière rationnelle, etc. Il y a aussi toute une culture automobile qui s'est construite, encouragée notamment par la publicité, mais aussi par le cinéma, par d'autres éléments qui ont façonné cette culture automobile et qui peut aussi, pour certains aspects, expliquer la difficulté des fois à remettre en question aussi la place centrale qu'elle a pu prendre dans les mobilités, dans les modes de vie de manière plus générale. Donc en tout cas, de manière globale, si on veut expliquer la situation actuelle, il n'y a pas un seul facteur en tout cas qu'on pourrait évoquer, c'est vraiment un ensemble de facteurs différents qui explique cette place prépondérante qui peut y avoir aujourd'hui dans les mobilités.
Et est-ce que cette place prépondérante de la voiture, c'est le cas dans d'autres pays du monde, par exemple? Parce que j'ai l'impression quand même que c'est une vision assez occidentale d'avoir cette place prépondérante. Si on parle d'autres pays comme la Chine, les États-Unis, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe dans les grandes lignes?
Oui, alors en gros, c'est en effet dans les pays les plus développés, entre guillemets, qui a eu le plus fort développement de la voiture, parce qu'un de ces facteurs de développement, comme je l'évoquais, c'est le fait qu'il y ait une hausse du niveau de vie. Du coup, s'il n'y a pas une hausse du niveau de vie aussi importante qu'il y a pu avoir en France, eh bien, il n'y a pas forcément un développement de la voiture aussi fort. Donc si on regarde en tout cas les taux de motorisation, c'est-à-dire le nombre de voitures, par exemple, pour 1000 habitants, donc aujourd'hui en France, on est à plus de 500 voitures pour 1000 habitants, on doit être autour des 600 ou un petit peu moins. Aux États-Unis, c'est encore plus que ça. De mémoire, ça doit être autour des 800 voitures pour 1000 habitants. Et dans d'autres pays, on est à quelques dizaines de voitures pour 1000 habitants, ou vraiment des chiffres extrêmement faibles. Pour la Chine, c'est en développement assez fort, même si ça reste à des niveaux entre guillemets assez faibles par rapport à la France, par exemple, mais c'est en développement assez fort. Donc finalement, les dynamiques sont assez différentes selon les pays, entre des pays qui sont arrivés un petit peu à saturation, entre guillemets, du développement de l'automobile, tel que la France, finalement, ça fait quand même pas mal d'années que le nombre de voitures en moyenne par ménage ou au niveau de la France n'augmente plus beaucoup. Alors le parc continue un petit peu à augmenter parce qu'il y a toujours un peu une croissance de la population, mais c'est plus dans des chiffres extrêmement élevés, alors que dans d'autres régions du monde, plus davantage en voie de développement, là la voiture a tendance à être en développement plus fort par rapport à ce qu'on peut avoir dans des pays comme la France.
Ok, donc si on résume, la place de la voiture est très liée à l'augmentation du niveau de vie, et on observe qu'à l'échelle mondiale, ce postulat se confirme par rapport aux différentes dynamiques qui peuvent se passer. Il y a une donnée que j'aimerais bien que tu nous partages. Il me semble que c'est 30% le montant des transports sur l'empreinte carbone française. Est-ce que dans ces 30%, tu peux nous donner la place de la voiture ? En France.
Oui, en gros, en France, c'est à peu près en effet 30% l'ensemble des transports sur les émissions nationales, donc les émissions intérieures à la France. Donc c'est pas vraiment une mesure de l'empreinte carbone de manière générale de l'ensemble de nos modes de vie, mais en gros, les transports, c'est à peu près 30%, et là-dedans, il y a à peu près la moitié pour la voiture. Si on veut différencier aussi entre mobilité des voyageurs et transport de marchandises, il y a à peu près 2/3 qui sont sur le transport de voyageurs et 1/3 pour les marchandises. Donc ça veut dire que comme on est sur 30% au global, c'est à peu près 20% mobilité des voyageurs et à peu près 10% sur le transport de marchandises. Après, on peut questionner un certain nombre de ces chiffres, notamment parce que j'évoquais que c'est les transports intérieurs, donc les transports internationaux ne sont pas comptés dans ces 30%-là. Donc, si on rajoute notamment l'aérien, qui est le plus gros des transports internationaux, ça rajoute aussi un certain nombre d'émissions, pour le maritime également. Après, si jamais on ramenait finalement l'ensemble de ces émissions à l'empreinte carbone de la France, qui est plus importante aussi que ses émissions intérieures, on retrouve globalement en fait un ordre de grandeur autour des 30%. Mais ce qui est sûr, c'est que ces 30% en tout cas donnent le montant d'émissions intérieures à la France, et que les émissions directes aussi au moment où on utilise les modes de transport. Donc, c'est-à-dire que par exemple les émissions liées à la production de l'énergie nécessaire au transport, liées à la fabrication des véhicules ou encore des infrastructures de transport ne sont pas comptées ici. Mais encore une fois, si on les intègre et qu'on ramène sur l'ensemble de l'empreinte carbone, on reste sur cet ordre de grandeur de 30%. Donc en France, c'est le principal secteur émetteur, donc un secteur majeur si on veut réussir à atteindre nos objectifs climatiques. Et ce qui est assez problématique justement, c'est qu'en termes de trajectoire, c'est un peu le seul secteur pour lequel on n'a pas des baisses d'émissions significatives sur les dernières années. Un point de comparaison qu'on prend souvent, c'est celui de 1990. Et par rapport à 1990, c'est le seul secteur en France, en gros, qui a des émissions supérieures aujourd'hui à celles de 1990.
Et comment t'expliques cette situation ?
Et du coup, en fait, si on regarde l'évolution depuis 1990, on a eu surtout une hausse des émissions jusqu'au début des années 2000. Et ça, c'était essentiellement porté par l'augmentation de la demande de transport. Donc, en gros, ce qu'on entend par demande de transport, c'est les kilomètres parcourus quand on raisonne sur la mobilité des voyageurs. Et puis, c'est ce qu'on appelle les tonnes-kilomètres, ou en gros, c'est les trafics de marchandises pour le trafic de fret, en sachant qu'une tonne-kilomètre, c'est une tonne qui voyage sur un kilomètre. Et donc, soit, quoi, en gros, il y a deux moyens de faire augmenter ces tonnes-kilomètres, c'est soit on déplace plus de marchandises, on augmente le nombre de tonnes, soit sur des distances plus longues, donc on augmente le nombre de kilomètres aussi. Et donc ça a porté la hausse des émissions, donc à la fois le fait que côté voyageurs et côté marchandises, on fasse que les trafics soient de plus en plus importants. Et puis, depuis le début des années 2000, il y a eu un peu une saturation en termes de hausse des kilomètres parcourus sur les transports intérieurs à la France pour la mobilité des voyageurs. Notamment, il y a eu un effet de saturation lié au développement de l'automobile, comme j'évoquais, et aussi le fait que à partir du début des années 2000, il y a eu la mise en place des radars sur les routes, que ça a eu aussi un effet à la baisse sur la vitesse moyenne des mobilités. Et comme la vitesse a une implication très forte sur le nombre de kilomètres qu'on parcourt, eh bien en fait, le fait qu'on ait baissé la vitesse moyenne des mobilités, ça a amené aussi à faire moins de kilomètres à ce moment-là, ce qui est un peu un effet inattendu.
C'est curieux, effectivement.
Moi, je m'y attendais pas spécialement dans ma thèse, mais on voit des sortes de corrélation, en tout cas de ces deux évolutions vraiment extrêmement proches entre la vitesse moyenne des mobilités, le nombre de kilomètres parcourus, et en fait c'est pas illogique quelque part qu'il y ait cette évolution-là, parce que si la vitesse baisse, on a deux types de réactions possibles, soit on passe plus de temps dans les transports pour faire toujours autant de kilomètres, soit si on veut préserver un peu ces temps de transport, eh bien on fait aussi moins de kilomètres. A priori, il y a eu un peu des deux à ce moment-là, mais en tout cas les kilomètres parcourus ont baissé à ce moment-là, ce qui a participé à la baisse des émissions sur le début des années 2000. Côté transport de marchandises, la baisse des émissions est arrivée un peu plus tardivement, et en fait c'est surtout que le transport de marchandises a fortement subi la crise de 2008. Du coup, ces trafics ont fortement baissé à ce moment-là, ce qui a fait baisser les émissions. Donc en gros, on a des émissions aujourd'hui qui sont un peu moins élevées, en tout cas par rapport au début des années 2000. Mais sur les années 2010, disons, on était sur des émissions qui étaient relativement stables. Donc ça veut dire qu'il y avait des tendances qui jouaient un peu à la hausse sur les émissions, d'autres un petit peu à la baisse. Mais globalement, il n'y a pas eu de changement extrêmement majeur, en tout cas sur cette période-là. Et puis ensuite, il y a eu une chute des émissions en 2020 liée au Covid. Et depuis, un rebond des émissions, avec une hausse sur l'année 2021 assez forte, sur l'année 2022 également. On n'a pas retrouvé le niveau d'émissions de 2019, donc on garde quand même des émissions plus faibles à la fois sur 2022 et ce qu'on peut en voir pour l'instant sur les premières données qu'on a sur l'année 2023. Et je pense, à mon avis, qu'on ne retrouvera jamais ce niveau d'émissions de 2019, ni celui du début des années 2000, donc en particulier sur les transports intérieurs à la France, parce que de plus en plus, les émissions directes des transports vont baisser parce que au fur et à mesure, on va avoir un effet un petit peu plus fort de l'électrification, notamment des voitures. C'est un peu ça le mode de transport qui s'électrifie le plus rapidement. Donc, sur les émissions directes, on va avoir une baisse. Après, il faut regarder les choses un peu plus globalement en analyse de cycle de vie, mais en tout cas, on a en tendance des tendances qui commencent à aller dans le bon sens, dans le sens de la baisse, mais le problème, c'est que c'est pas du tout suffisamment rapide, en tout cas par rapport aux objectifs qu'on s'est fixés.
Ok, ouais, effectivement, je pense que ce point-là est absolument clé, la vitesse à laquelle les émissions vont pouvoir baisser, mais si la tendance est bonne, c'est peut-être enfin une bonne nouvelle.
Oui, c'est ça, on peut au moins prendre cette partie-là.
On a pas mal parlé donc de la voiture et des grandes tendances en termes de trajectoire sur lesquelles on était concernant les émissions de CO2. J'aimerais qu'on rentre un peu plus dans les autres types de mobilité. Donc la voiture, on l'a comprise, a une énorme place. On a aussi des transports en commun, des nouvelles mobilités aussi qui commencent à se développer. On voit des voitures et on ne sait plus vraiment si on doit les appeler voitures d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous expliquer aujourd'hui quelle est la place de ces autres modes, donc transport en commun, vélo, et nouvelles formes de mobilité, et quel serait leur potentiel pour accélérer cette courbe dont tu parlais tout à l'heure.
Oui, alors en gros, si on prend aujourd'hui sur l'ensemble de nos déplacements courtes et longues distances, la voiture, elle représente à peu près 2/3 de nos mobilités, en fait sur un peu les 3 principaux critères sur lesquels on peut caractériser notre mobilité, donc en nombre de trajets. La voiture, c'est à peu près, c'est quasiment les 2/3 de notre mobilité. Si on raisonne en kilomètres parcourus, c'est pareil, c'est à peu près les 2/3 de la mobilité. Et si on raisonne en temps de transport, le temps qu'on passe dans les transports, la voiture représente aussi à peu près 2/3 de nos temps de déplacement. Donc c'est vraiment le mode qui domine, quels que soient les critères finalement qu'on prend en compte. Si on regarde quel est le deuxième mode de transport, eh bien ça va dépendre un peu cette fois-ci des critères qu'on regarde. Si on raisonne en nombre de trajets réalisés ou en temps de transport, c'est la marche qui est le deuxième mode de transport et qui représente 20 voire un peu plus de 20% de nos mobilités sur ces deux critères-là. Par contre, en distance, ça représente beaucoup moins parce que ce sont des trajets qui sont particulièrement courts. Et donc, si on raisonne en distance, c'est l'avion qui est le deuxième mode de transport avec de l'ordre de 15-20% des distances parcourues. Et ça a été fortement en augmentation et quelque part dans les tendances qui vont dans le mauvais sens sur ces dernières années, c'est essentiellement sur le transport aérien que ça va dans le mauvais sens. Si j'en enlève l'effet Covid, ou bien évidemment il y a eu des baisses de trafic très fortes. Mais donc ça, c'est un peu sur les... Finalement, dans les autres modes de transport, le deuxième mode de transport, finalement, c'est la marche ou c'est l'avion, suivant le critère qu'on regarde. Et après, les transports en commun, si je combine à la fois transport ferroviaire et transport en commun routier, les bus et les cars, etc., on est sur ces différents critères autour d'une 15% nos mobilités qui sont faites avec ces modes de transport en commun. Et sur la part du vélo, le vélo aujourd'hui, c'est de l'ordre de 3-4% de nos trajets. En temps de transport, c'est assez similaire en ordre de grandeur. Par contre, en kilomètres parcourus, ça va être plus faible parce qu'en moyenne, ce sont des trajets qui sont plus courts aussi que la moyenne de nos déplacements. Donc ça, c'est un peu l'image de départ qu'on a aujourd'hui. Si on regarde par exemple le potentiel du vélo, si on se compare aux Pays-Bas, on a une pratique qui est de l'ordre de 10 fois moins élevée que celle qu'il peut y avoir aux Pays-Bas. Donc eux, ils ont une part modale, comme on appelle ça, c'est la part du vélo dans l'ensemble des déplacements, qui est plutôt autour des 30%.
Mais qu'est-ce qui a provoqué ça aux Pays-Bas ? Est-ce que culturellement, les Néerlandais sont fans du vélo et ça a amené une pratique très importante ? Enfin, qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous, quelque part, pour avoir plébiscité autant cette pratique ?
Alors, il peut y avoir des aspects culturels, mais en fait, qui se réalisent au fur et à mesure du développement du vélo. Ce qui compte le plus, en fait, à la base, c'est quelles sont les politiques publiques qui sont mises en œuvre pour faciliter le vélo. Et en fait, ça, les Pays-Bas s'y sont mis depuis de nombreuses décennies, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils récoltent les fruits de politiques cyclables qui n'ont pas commencé, disons, il y a 3 ans, si je caricature un peu pour la France, où c'est assez récent, en tout cas, qu'on ait eu des politiques plus structurées autour du vélo. Mais eux, c'est notamment depuis le début des années 70 qui a eu des politiques bien plus structurées, à un moment notamment où le choc pétrolier a pu jouer, parce que voilà, il y a eu un embargo sur le pétrole qui les a obligés à essayer de fortement réduire les consommations de pétrole. En France, il y a aussi eu des mesures à ce moment-là, mais pas spécialement sur la relance du vélo. Et puis, il y a aussi eu des contestations très fortes sur le besoin de sécurité dans l'espace public pour les piétons, et notamment pour les vélos, et notamment pour les enfants. Il y a eu des mobilisations très fortes, notamment suite à un accident d'un enfant qui est décédé. C'était un enfant d'un journaliste, donc ça a été aussi davantage médiatisé. Il y a eu des mobilisations suite à ça pour demander des aménagements sécurisés, notamment. Et donc, finalement, il récolte aussi depuis les fruits de politiques publiques qui ont encouragé l'usage du vélo à la fois dans les infrastructures, mais aussi plus globalement, si on veut avoir un système vélo qui est efficace, c'est aussi encourager à la fois l'achat de vélos, potentiellement avoir des aides fiscales, avoir des aides des règles de circulation qui facilitent l'usage du vélo, qui le rendent plus sécurisé, avoir aussi une communication positive autour du vélo. Donc là, il y a l'aspect culturel qui peut rentrer en jeu, mais on voit que ça, c'est pas quelque chose de figé, en tout cas la culture du vélo. Et y compris en France, finalement, si on regarde depuis 5-10 ans, il y a eu des progrès sur l'aspect culturel du vélo qui ont été extrêmement fort, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a déjà beaucoup plus une culture du vélo en tant que mode de déplacement que ce qu'on pouvait l'avoir il y a 5 ou 10 ans.
T'as des exemples de comment ça s'est incarné concrètement à l'échelle de métropole, de ville ?
Pour le vélo en France ? Alors pour le vélo en France, disons que les politiques de redéveloppement du vélo, ça fait déjà quelques années qu'elles sont en cours finalement sur les plus grandes villes, et en fait si on regarde l'usage du vélo sur ces dernières années, il était déjà en hausse, en fait, c'est dans les plus grandes villes, dans le centre des plus grandes villes, depuis plus de 10, 15, 20 ans, voilà, selon les endroits. Mais par contre, l'usage du vélo continue à décliner plutôt dans les zones rurales, dans les zones moins denses, etc. Et récemment, on est plutôt en train d'avoir une sorte d'inversion dans ces zones-là, c'est-à-dire que de nouveau, potentiellement, on aurait plutôt une croissance du vélo, finalement, sur l'ensemble des territoires. Donc ça, je pense que c'est un aspect qui est extrêmement intéressant et important dans le développement du vélo, c'est que on ne considère pas que c'est uniquement un mode de transport pour le centre des plus grandes villes. À la fois, il y a une vraie pertinence dans ces zones-là, donc il faut continuer à développer le vélo ici. Mais surtout, il y a des possibilités pour développer le vélo, y compris dans des zones peu denses, y compris dans les zones rurales, à condition que la pratique y soit davantage sécurisée. Ça répondra pas à l'ensemble des besoins, hein, mais de toute façon, il n'y a aucun mode de transport alternatif à la voiture qui répond à l'ensemble des besoins. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pertinence à les développer. Mais en tout cas, il y a tout un tas de trajets suffisamment courts, entre guillemets, y compris dans les zones rurales, pour qu'il y ait un développement du vélo qui soit très fort. Et ça, on voit que dans les politiques publiques, en tout cas, c'est en train d'évoluer. Il y a de plus en plus d'appels à projets de l'État, des politiques de collectivités territoriales, y compris dans ces territoires moins denses, dans le périurbain, dans les zones rurales, etc., pour pouvoir faire des aménagements, pour encourager plus globalement ces pratiques du vélo. Donc il y a des métropoles dans lesquelles ça va beaucoup plus vite encore que dans ces zones peu denses où on part de plus loin. On peut citer en France, il y a notamment Grenoble, il y a Strasbourg, il y a Bordeaux qui sont dans les villes qui ont les parts modales les plus fortes, mais aussi à Lyon ça bouge beaucoup, à Nantes, à Rennes, etc. Il y a un développement, une dynamique qui est quand même assez forte. Mais ce qui est important, c'est qu'en tout cas c'est politique sur le vélo et sur la mobilité de manière générale ne se cantonne pas qu'aux plus grandes villes, au centre de ces plus grandes villes.
Alors ce que je trouve intéressant là dans l'exemple des Pays-Bas, c'est qu'à l'instar de la voiture en France dont tu parlais tout à l'heure, c'est finalement une multitude de facteurs qui permettent d'expliquer qu'un mode va prendre le dessus sur certains déplacements. Et ce que je me dis aussi, c'est que c'est peut-être finalement le temps que ces modes s'installent dans les habitudes, on va être sur un temps long pour que les gens aient bien le temps de se l'approprier. Donc on a beaucoup parlé là dans cette partie des différents modes existants, qu'on connaît tous, le vélo, la voiture, l'avion, voilà, on se représente tous très bien ce que c'est. Peut-être que certains de nos auditeurs ont commencé à voir sur les routes des véhicules légers et intermédiaires, ces nouvelles formes de mobilité. Je vais y aller franco. Est-ce que toi, t'y crois ou pas à ces nouveaux types de mobilité ?
Oui, alors ces véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture, il y en a une grande diversité. Il y en a certains qui déjà aujourd'hui en fait sont assez développés et d'autres qui sont vraiment quelque part presque à inventer ou en tout cas à développer par rapport à aujourd'hui. Et j'y crois en tout cas pour un certain domaine de pertinence, c'est-à-dire que chaque mode de transport ne répond pas à tous les usages. Finalement, il y a un peu que la voiture qui a un peu rempli cette fonction multi-type de trajet en termes de distance et d'usage, aussi bien finalement dans les villes que dans les campagnes, pour des déplacements de, en gros, les déplacements de 1 km jusqu'à 1000 km sont largement dominés par la voiture actuellement, donc des trajets très variés. On n'a pas d'alternative unique, mais donc il faut combiner différents types de modes de transport, de types de véhicules, etc. Et il y a une zone de pertinence aussi pour ces véhicules intermédiaires entre le vélo et la voiture.
Et tu la verrais où, cette zone de pertinence, justement ?
Alors, en priorité, en gros, c'est quand le vélo classique ne devient plus pertinent, ou disons qu'on est sur des usages qui peuvent plus vraiment être remplis par le vélo classique. C'est par exemple quand on a besoin d'avoir un peu une assistance électrique. Déjà, en fait, les vélos assistance électrique sont comptés dans ces véhicules intermédiaires. Donc, cette assistance permet d'aller un petit peu plus vite, donc un petit peu plus loin, passer un peu plus facilement les reliefs, avoir moins d'efforts à faire. Donc, finalement, il y a beaucoup plus de personnes qui veulent bien se mettre au vélo à assistance électrique comparé au vélo classique. Okay. Donc finalement, par rapport à une différence sur le véhicule qui reste assez faible, une différence de vitesse finalement qui est assez faible, etc., on voit déjà que les usages sont assez différents. On peut penser aussi aux vélos cargo qui permettent d'emporter plus facilement des charges, emporter des enfants, etc. On peut penser aux vélos pliants qui s'emportent plus facilement, par exemple, pour faire de l'intermodalité dans les transports en commun, cumuler un trajet vélo plus train, par exemple. On a aussi des vélos adaptés aux personnes à mobilité réduite, par exemple. Donc ça, c'est un peu toutes ces catégories de vélos spéciaux. Dans les vélos qu'on peut rapprocher un peu des vélos assistance électrique, il y a les Speed Pedelec. Là, ce sont des sortes de vélos assistance électrique, mais où l'assistance va jusqu'à 45 km/h.
D'accord,
donc,
ok.
Légalement, en France, ils sont considérés comme des cyclomoteurs. Mais en tout cas, dans des zones de faible densité, dans les zones rurales, dans le périurbain, etc., il peut y avoir un intérêt à aller plus vite que 25 km/h. Et puis, quand on va encore un petit peu plus vers la voiture, typiquement, on a ce qu'on peut appeler les vélos mobiles ou les vélos voitures. Là, ça va être des véhicules qui commencent à avoir un peu une forme de voiture, vont être protégés du coup des intempéries, qui vont avoir des usages qui se rapprochent un petit peu plus de la voiture aussi en termes de confort, mais des véhicules très légers par rapport à la voiture, donc de l'ordre de 100 kg ou moins de 100 kg, et à l'intérieur desquels il va y avoir un pédalage, donc c'est ça qui se rapproche au vélo, donc un pédalage qui va être assisté à 25 ou 45 km/h selon les véhicules.
Et juste, tu trouves pas qu'en termes d'identité d'objet, c'est assez marrant finalement de tirer soit vers la voiture, soit vers le vélo, et en fait on est sur quand même des objets complètement nouveaux qui correspondent à des nouveaux usages, et pour autant on n'arrive pas à les nommer et leur donner une identité. Je trouve ça assez marrant.
Oui, c'est ça. On a aujourd'hui finalement, en termes de vocabulaire, des fois il manque un petit peu certains termes, ou peut-être qu'ils vont être à inventer, ou ils vont évoluer au cours du temps, mais c'est sûr que pour l'instant, ces véhicules-là, comme ils sont, à la fois c'est une catégorie très large et qu'aujourd'hui ils sont pas forcément très bien identifiés, ou il y en a un certain nombre qui sont pas particulièrement fortement utilisés, on va beaucoup les comparer à ce qu'on connaît aujourd'hui, en effet, comparé au vélo, comparé à la voiture, ou bien aux deux roues motorisées, finalement, qui est un peu un véhicule intermédiaire entre le vélo et la voiture, qui lui, pour le coup, est déjà assez largement utilisé. Mais en tout cas, si on veut regarder leur intérêt dans la transition, c'est surtout en remplacement de la voiture qu'ils vont avoir un intérêt. Par exemple, si c'est en remplacement du vélo classique, bien souvent, ce sont des véhicules un petit peu plus lourds, un peu plus avec des batteries un petit peu plus grosses, ou avec des impacts qui vont être un peu plus importants que le vélo, mais bien souvent bien moins importants que la voiture. Alors ça dépend encore une fois du type de véhicule. Dans les plus proches de la voiture, il y a les mini-voitures, les voiturettes, etc., donc bien évidemment à développer en électrique, mais qui vont avoir en tout cas une capacité de batterie et donc des impacts environnementaux qui sont bien plus réduits par rapport aux voitures électriques, avec beaucoup plus grosses et avec des autonomies de l'ordre de 300-400 km telles qu'on peut les développer aujourd'hui.
On est sur un ordre de grandeur de fois combien, tu vois, entre un véhicule léger intermédiaire avec une petite batterie versus une voiture électrique classique?
En gros, on peut regarder en termes de capacité de batterie et donc de besoin de métaux pour ces différents véhicules. En gros, 100 kWh de batterie, donc c'est une capacité de batterie, c'est à peu près ce qu'il faut pour électrifier un gros SUV ou un pick-up électrique. Donc ça, c'est 100 kWh. Si ensuite, on se dit que c'est 100 kWh, on veut plutôt les utiliser pour des voitures citadines, déjà de taille un peu plus raisonnable, eh bien, en moyenne, on va avoir deux voitures. Finalement, on peut électrifier deux voitures avec cette capacité de batterie parce que il faut à peu près 50 kWh par véhicule. Et si jamais on va, par exemple, sur ces mini-voitures ou ces voiturettes qui sont dans les véhicules intermédiaires, mais parmi les plus proches de la voiture, eh bien, on peut avoir 16 véhicules avec avec cette même capacité de batterie, parce que là, on est plutôt sur des ordres de grandeur de, disons, 5 à 8 kWh de batterie par véhicule. Et puis après, si on va encore plus vers encore plus sobre, toujours dans ces véhicules intermédiaires, le vélo assistance électrique que j'évoquais, qui là, cette fois-ci, est dans les plus proches du vélo, eh bien, à ce moment-là, avec cette même capacité de batterie, on peut électrifier 200 véhicules.
Donc avec les 100 kWh de base.
C'est ça, avec les 100 kWh de batterie. Et donc, en fait, 100 kWh de batterie, c'est à peu près la capacité donc du pick-up ou du SUV électrique, pendant que de l'autre côté, c'est 500 watt-heure, donc voilà, 200 fois moins pour électrifier un vélo. Voilà, selon le type de mobilité qu'on va développer, l'impact de l'électrification en termes de consommation de ressources et du coup d'impact aussi environnementaux, sociaux ou encore géopolitiques qui est en lien avec l'extraction de ces métaux, eh bien ils vont être très différenciés. Donc on a tout intérêt à aller vers des modes de transport et des véhicules qui sont plus sobres par rapport à ce qu'on utilise aujourd'hui.
Ouais, donc si je résume là cette grande première partie sur le panorama des mobilités, en fait ce que tu dis quelque part, c'est qu'il faut qu'on arrive à remettre les bons modes aux bons endroits pour remplacer la voiture.
Ouais, il y a des zones de pertinence en effet, et en gros ce qu'il faut privilégier autant que possible, le mode quelque part le plus vertueux, c'est la marche.
Ouais.
Donc quand les distances le permettent, et on peut essayer d'avoir davantage de déplacements à courte distance, donc agir sur la proximité, la réduction des distances, etc. Donc la marche est à privilégier, puis ensuite le vélo quand les distances sont un peu plus importantes, puis quand les distances deviennent trop importantes pour le vélo, eh bien dans les zones notamment où les flux de déplacement sont forts, bah, ça peut être les transports en commun là qui prennent le relais, transports en commun ferroviaire, transports en commun routier, puis quand on est sur des flux qui sont pas suffisants pour ces modes de transport-là, notamment dans les zones peu denses, bien là, c'est la voiture qui prend le relais, mais idéalement, autant que possible, la voiture partagée. Et si on n'arrive pas à faire de la voiture partagée, qu'il y a une seule personne à l'intérieur du véhicule, bien à ce moment-là, là, la zone de pertinence, c'est des véhicules beaucoup plus sobres, beaucoup plus légers, tels que ces véhicules intermédiaires. Et puis après, sur la plus longue distance, bah, c'est à la fois, voilà, le train, les transports en commun qui sont dans les plus vertueux, et puis limiter la part de l'avion, ce qui demande aussi de questionner, finalement, les imaginaires de voyage, quels sont les destinations qu'on choisit, parce que aujourd'hui, il n'y a que l'aérien, finalement, qui permet de partir à l'autre bout du monde pour une semaine de vacances, et on n'a pas d'alternative sobre qui permette de rendre ce niveau de service-là. Donc, c'est pour ça que ça questionne la sobriété dans le trafic aérien, parce qu'en plus, on n'a pas d'alternative technologique à court terme, ou qui soit même à l'échelle à plus long terme, pour continuer ces croissances de trafic actuelles et cette manière de voyager finalement souvent à longue distance, ou en tout cas pour ceux qui se le permettent, qui peuvent se le permettre aujourd'hui. Donc il faut qu'on réussisse à avoir d'autres pratiques de mobilité sur la plus longue distance aussi pour limiter le transport aérien.
Ouais, effectivement, on comprend très bien la logique que tu poses avec finalement cet enchaînement de quoi j'ai besoin en termes de kilomètres et qu'est-ce que je prends comme mode de transport. Après ce grand panorama de la mobilité, je trouve que ça repose aussi les bases d'un système qui est complexe et qui va jouer sur du rationnel et aussi de l'émotionnel, t'en parlais juste à l'instant avec notre rapport au voyage. Tout l'objet de ce podcast, c'est aussi de se projeter dans un univers de futur désirable. Et du coup, ma première question pour toi sur cette thématique, ce serait... À l'instar du Petit Prince, voilà, tu débarques sur une nouvelle planète qui, comme par hasard, ressemble à la France. C'est assez marrant. Et du coup, ton job, c'est vraiment de concevoir, voilà, l'infrastructure de transport qui va permettre de répondre aux besoins de déplacement. Qu'est-ce que t'aurais envie de faire, sachant que là, on va se mettre dans une situation où on est sur la France telle qu'on la connaît aujourd'hui.
Ouais, ok. Si on est sur la France telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec les infrastructures et les pratiques de mobilité qu'on peut déjà avoir actuellement, mais quelque part, c'est de transformer pour beaucoup l'existant pour pour permettre d'autres pratiques de mobilité, essayer de transformer les modes de vie, l'aménagement du territoire autant qu'on le peut aussi pour réduire les distances, comme je l'évoquais. Et puis sur les infrastructures existantes, notamment je pense au transport routier. L'objectif, c'est pas de démultiplier encore plus les routes pour faire des infrastructures pour les modes plus sobres. Alors, il peut y avoir des ajouts de pistes cyclables, par exemple, quand c'est nécessaire d'avoir des infrastructures séparées, etc. Mais c'est aussi beaucoup via la transformation de l'existant qu'il faut réussir à permettre d'autres pratiques de mobilité si on ne veut pas, quelque part, avoir trop de nouvelles infrastructures par rapport à actuellement.
Et donc, ce serait quoi, pardon, je me permets de te couper, ce serait quoi justement ces modifications, comment elles s'incarneraient si on prend une route de campagne, une autoroute, ce serait quoi la version du futur?
Exactement. En gros, si on regarde les routes de campagne, en tout cas, on a aujourd'hui en France, alors ça dépend un peu des régions, etc., mais on a un réseau extrêmement bien maillé de petites routes dans les zones rurales, y compris plusieurs routes qui peuvent être un peu en parallèle et qui peuvent permettre de réserver finalement une partie de l'infrastructure potentiellement au mode plus lent, plus vulnérable, tels que la marche, le vélo, les véhicules intermédiaires, sans forcément construire de nouvelles routes. Donc ça peut être une manière de sécuriser la pratique de modes de transport qui sont tout à fait vertueux, comme par exemple le vélo, mais qui aujourd'hui ne sont pas sécurisés en termes de pratique dans ce type de milieu-là. Et c'est vraiment une réflexion qui émerge de plus en plus et un certain nombre de collectivités commencent à faire des expérimentations là-dessus. Et puis après, si jamais on est sur des routes à faible circulation, mais où, par exemple, il n'y a pas d'itinéraire alternatif facile, etc., mais qui reste finalement que un faible nombre de véhicules, eh bien, il y a en principe une faible dangerosité au vu de ce faible trafic. Mais si les vitesses sont importantes pour ces quelques trafics qui passent par jour, eh bien, ça peut les garder en gros un niveau d'insécurité qui est trop fort, par exemple, pour utiliser le vélo, etc.
Oui.
Et donc là, ça pose la question de la vitesse, finalement, sur ces infrastructures qui auront un très faible trafic, mais que ce très faible trafic serait trop rapide pour permettre d'autres pratiques de mobilité plus vertueuses. Donc ça peut être de faire évoluer aussi les règles dans ce genre de cas, ou un petit peu comment on redessine les espaces de circulation. Alors, dans certains de ces milieux-là, même si c'est pas vu comme une solution à massifier, il y a par exemple ce qu'on appelle les chaussées doux, les chaussées à voie centrale banalisées. En gros, c'est des infrastructures sur lesquelles les voitures sont autorisées un peu au centre de la circulation, mais il y a des bandes cyclables de chaque côté sur lesquelles les voitures ont le droit de se déporter que si jamais elles doivent croiser un autre véhicule qui arrive en face.
Oui, sur les petites routes de campagne en Picardie, j'en ai déjà vu plusieurs.
Oui, c'est ça. Et après, il faut que ça puisse s'adapter à des niveaux de trafic qui sont assez faibles, parce que sinon, le risque, c'est que ces infrastructures ne soient pas bien utilisées. Mais en tout cas, il y a des transformations de ce type-là qui sont aussi à réaliser. Et puis, la transformation de l'existence, c'est aussi beaucoup pour les routes en ville ou dans les villages, etc., de faire en sorte qu'on puisse en réserver une partie pour le vélo, davantage pour la marche aussi à certains endroits où même il n'y a pas toujours des trottoirs ou pas des trottoirs suffisamment larges, ou bien des trottoirs qui sont encombrés par des véhicules en stationnement. Des trottoirs qui doivent permettre aux personnes d'avoir des trajets, y compris dans les petits villages, pour des trajets à courte distance, et il y en a y compris dans les zones rurales, des trajets qui sont faisables à pied ou à vélo, que ce soit des trajets qui soient à la fois sécurisés, agréables et qui puissent être possibles, y compris pour des personnes qui ont une poussette ou pour des personnes qui sont en fauteuil roulant. Et bien souvent, c'est pas le cas aujourd'hui. Donc, repenser, comme j'évoquais finalement, à la marche en priorité, au vélo, puis en fait, avoir une sorte de hiérarchie entre les modes de transport pour voir comment on privilégie ceux qui sont les plus vertueux. Alors que jusqu'à maintenant, on a eu tendance à privilégier avant tout la voiture, à réserver essentiellement les infrastructures de circulation, de stationnement avant tout pour la voiture. Puis ensuite, on s'est dit, bon, c'est quand même bien d'avoir des transports en commun. Et puis, les modes actifs, comme le vélo, c'est plus récent que ce soit pris en compte dans les politiques publiques. Et la marche, c'est encore assez souvent absent finalement des réflexions. Et en fait, quand on regarde cette hiérarchie un peu historique par rapport à ce qu'il faudrait faire et quels sont les modes les plus vertueux, il faut complètement renverser cette hiérarchie-là. Donc, c'est vraiment repenser dans les différents espaces, dans les infrastructures, mais aussi plus globalement dans l'évolution de la fiscalité, des aides qu'on peut mettre à tel ou tel mode de transport, dans les offres qu'on va permettre, par exemple, pour les transports en commun, pour le vélo, pour les différents types de mobilité. Comment on revoit ça pour à chaque fois favoriser les modes les plus favorables?
Et justement, sur cette question du ferroviaire, de l'offre ferroviaire, comment t'imagines les choses?
Alors sur la question de l'offre ferroviaire, il y a un peu deux grands types de déplacements qu'on peut voir. En tout cas, il y a à la fois le transport ferroviaire du quotidien et puis ceux de plus longue distance. Ce qui est sûr, c'est que le ferroviaire va être le mode de transport le plus vertueux quand on dépasse les distances faisables avec la marche et le vélo, quoi, en gros. Donc ça veut dire, dans les distances plus importantes, c'est un mode à privilégier, à la fois parce qu'il est plus efficace d'un point de vue énergétique, et aussi parce que déjà, aujourd'hui, c'est assez largement électrifié. Et donc, dans les offres qu'il faut proposer, en gros, en plus, par rapport à aujourd'hui, pour réussir à développer la pratique, l'usage du train, à la fois sur la longue distance, bah, il y a la question de développer l'offre ferroviaire dans des lieux où il y a déjà une densité de population, des flux qui sont assez importants. Notamment, c'est la question des RER métropolitains ou des services express métropolitains qui est davantage dans l'actualité ces derniers mois et qui peut, dans des grandes métropoles, faciliter l'usage des transports en commun, du ferroviaire, entre, en gros, les périphéries et le centre des villes, ou aussi dans les mouvements inverses aussi, parce que finalement, les flux sont assez complexes et sont pas que des flux de périphérie vers le centre, etc. Pas que à l'heure de pointe du domicile travail, etc. Mais en gros, là, l'idée, c'est d'avoir une qualité de service qui est bien plus importante par rapport à une fréquence, etc., bien plus importante par rapport à certains TER qu'il peut déjà y avoir à certains endroits, mais pas forcément avec des niveaux de fréquence et autres qui sont suffisamment importants. Donc il peut y avoir ce type de projet-là, dans des villes moyennes aussi, davantage d'usage du tramway. Il y a encore des marges de manœuvre a priori là-dessus. Et puis sur les trajets de plus longue distance aussi, il y a un certain nombre d'offres qu'on peut développer, notamment par exemple les trains de nuit qui sont en redéveloppement, qui ont pour moi l'avantage assez fort de pouvoir aussi, par rapport à ce qui a tendance à être réenvisagé comme redéveloppement du train de nuit actuellement, en tout cas de pouvoir offrir des liaisons ferroviaires qui ne sont pas forcément des liaisons qu'on appelle radiales, en gros les liaisons qui partent ou arrivent à Paris. C'est-à-dire que notre réseau ferroviaire s'est beaucoup développé comme ça. Les premières lignes ferroviaires sont en étoile depuis Paris. Le réseau TGV s'est développé de la même manière. Et on a eu tendance, du coup, davantage à remplacer l'avion par le train sur ces liaisons-là. Donc c'est plutôt une bonne chose qu'on ait réussi à faire cette partie-là du chemin. Mais par contre, on a tendance à avoir une croissance de l'aérien et un manque de ferroviaire, donc aussi un développement fort de la voiture sur les liaisons qu'on appelle transversales, qui cette fois-ci sont, je dis juste quelques exemples, sur du Nantes pour aller à Lyon, sur du Bordeaux-Lyon, sur du Bordeaux-Marseille, sur du Brest pour aller à Strasbourg, sur bref, tout un tas de liaisons qui sont pas forcément des liaisons qui passent par Paris, ou en tout cas des liaisons sur lesquelles la voiture et l'avion aujourd'hui ont une part majoritaire, et le ferroviaire est bien souvent pas compétitif en temps de transport ou encore en prix. Et en fait, le fait de pouvoir développer le train de nuit, ça peut permettre de faire des trajets qui sont importants en termes de distance sans forcément avoir un temps de transport qui est sur un temps de trajet de, si on est sur du 7 heures en journée, c'est extrêmement élevé. 7 heures la nuit, c'est après la durée de la nuit, ou sinon si on ralentit un peu le train, eh bien en gros ça permet de limiter entre guillemets les temps de transport éveillés, donc ça permet de plus facilement supporter des distances importantes en train. Et puis l'avantage de ce type de liaison-là finalement par rapport au transport aérien, c'est que par exemple si on fait du Brest-Marseille en transport aérien, c'est que des personnes qui partent de Brest qui vont à Marseille. Si on fait Brest-Marseille,
on a une plus grande desserte.
En train de nuit, on peut desservir tout un tas de villes intermédiaires sur le tracé, et donc avoir des offres qui sont assez complètes de ce point de vue-là. Mais en tout cas, on a un potentiel de développement assez fort du train sur la longue distance. Ce qui est important à avoir en tête, c'est que pour développer vraiment, si on imagine par exemple dans un certain nombre de scénarios de prospective une multiplication par deux de l'usage du train à l'horizon 2050, il y a une question de saturation du réseau qui se posent de manière assez forte, de congestion, etc. Typiquement, les signaux qu'on a déjà aujourd'hui de cette saturation qui peut déjà exister, c'est le prix des billets au moment des départs en vacances. C'est parce qu'en fait, à ces moments-là, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Et même si peut-être on peut faire des nouvelles lignes à grande vitesse, c'est un grand débat dans lequel on pourrait rentrer, mais si on a peut-être un petit peu aujourd'hui. Plus d'infrastructures à longue distance, ou mettre un petit peu plus de... avoir des trains un peu plus capacitaires, etc., on peut faire des évolutions de ce type-là, mais ça demande aussi de revoir comment on peut faire en sorte d'ajouter des trains à moment où, à des endroits ou à des moments où aujourd'hui il y a de la capacité pour mettre plus de trains quelque part. Mais ce qui est sûr, c'est que par exemple sur Paris-Lyon, un vendredi soir de départ de vacances, on va pas vraiment avoir la place pour mettre plus de trains. Donc ça veut dire que potentiellement, c'est rééquilibrer un peu les types de destinations qu'on peut faire. Donc c'est un peu ça aussi dans les imaginaires, dans les évolutions des destinations, dans les évolutions des imaginaires de voyage, ou potentiellement décaler la date du départ en voyage, ce qui peut permettre aussi finalement de baisser les prix. Hein. C'est déjà des choses que des personnes font actuellement pour un peu en solution pour éviter cette congestion et ces prix très élevés au moment des périodes, des heures de pointe. Ou bien voilà, en tout cas de réussir à étaler un petit peu cette demande de transport ferroviaire, à la fois dans le temps, c'est-à-dire partir potentiellement à des moments où il y a moins de demande, et dans l'espace, c'est potentiellement d'autres types de destinations, d'autres types de lignes qui aujourd'hui sont moins fréquentées, sont pas du tout saturées pour un certain nombre de petites lignes, ou presque, il manque un peu de la demande, il manque un peu pour offrir une qualité de service avec des fréquences qui sont suffisantes. Donc c'est ça qu'il faut réussir aussi à penser, parce que comme aujourd'hui la part du train est relativement limitée, en gros c'est à peu près 10% des kilomètres parcourus en France, il y a un potentiel qui est particulièrement fort, notamment sur la longue distance, mais si on le fait à infrastructure constante, il faut bien réussir à penser mais comment on peut réussir à faire en sorte que de plus en plus de personnes utilisent le train, mais sans que ça se fasse avec tout le monde qui veut prendre le train au même moment. Et juste il n'y a pas la capacité pour cela, ou bien sinon les quelques rares personnes qui pourront avoir leur billet de train, ce sera à des prix vraiment extrêmement élevés, et du coup avec une question de répartition d'un point de vue social de cette offre de train.
Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé là sur cette question de ton système de transport en 2050, et tu l'évoques dans ta thèse, c'est la question de la démobilité. Est-ce que tu peux nous en dire plus, et surtout comment toi tu la projettes? C'est un sujet aussi qui peut faire débat sur la désirabilité.
Oui, alors la démobilité, en tout cas, on peut l'envisager sous différents aspects. C'est un terme que j'utilise pas tant que ça, parce que je pense qu'en tout cas, il faut préciser un petit peu derrière qu'est-ce qu'on entend par démobilité. Est-ce qu'en gros, c'est la réduction du nombre de déplacements? C'est un peu ce qu'on peut entendre dans ce terme-là. Ou bien est-ce que c'est la réduction des temps de transport? Ou bien encore, est-ce que c'est la réduction des kilomètres parcourus? Et c'est des logiques qui sont assez différentes, finalement. Et moi, j'ai tendance à penser que la réduction du nombre de trajets ou des temps de transport, c'est pas forcément quelque chose qu'on verra, parce que historiquement, en tout cas, c'est des aspects qui sont restés assez stables. Oui. Donc après, on peut avoir un intérêt pour le coup à chercher, par exemple, à limiter les temps de transport quand beaucoup de personnes ont des temps de transport qui sont subis, qui sont sur des distances importantes, ils ont des temps de transport importants, etc. Et limiter ces mobilités subies, c'est vraiment quelque chose de tout à fait important. Mais après, le risque aussi, on réduit le nombre de déplacements à certains endroits. Par exemple, c'est ce qu'on voit très bien avec le télétravail. Si on réduit le nombre de trajets pour aller au travail, eh bien, il y a potentiellement un certain nombre d'effets rebonds, de réallocation potentiellement du temps de transport libéré ou du nombre de trajets libérés pour d'autres types de trajets. Parce que si on fait du télétravail, potentiellement, il faut quand même aller déposer les enfants à l'école, par exemple, pour des personnes qui vont d'abord déposer les enfants à l'école, ensuite vont au travail, puis sur le chemin du retour, soit on a une activité, ou bien vont faire les courses, etc. Donc ça veut dire que même si on enlève l'étape du travail, il y a potentiellement d'autres trajets qu'il faut maintenir dans la journée. Donc c'est un premier type d'effet rebond, ou bien sinon avec le temps de transport libéré en étant en télétravail, on en profite pour faire une autre activité en fin de journée,
par exemple, qui va nécessiter
potentiellement un déplacement. Ou bien, sur un peu plus long terme, typiquement, si jamais on a besoin d'aller que deux ou trois fois au travail par semaine, potentiellement, on accepte plus facilement un travail qui est loin de chez soi, ou plus facilement de déménager loin de son travail. Ou bien encore, sur la longue distance, si on a le vendredi ou encore le lundi de télétravailler, de plus facilement partir en week-end à des distances plus importantes, si jamais il y a le vendredi ou le lundi qui peut être télétravaillé quelque part. Donc ça, c'est en tout cas une illustration sur le fait que la démobilité, il faut qu'on voit comment éventuellement il y a des effets rebonds, des aspects d'évolution de nos modes de vie, comment ça s'insère dans nos modes de vie, en gros, pour éviter justement qu'il y ait trop d'effets rebonds, ou bien que s'il y a des effets rebonds de nouveaux déplacements, par exemple liés au télétravail, ben, ce soit davantage des déplacements en proximité, etc., où à ce moment-là, ben, il n'y a pas forcément d'impact particulier, si c'est un déplacement à pied, à vélo, etc., ou si ça s'insère, par exemple, dans une relocalisation du mode de vie. Et c'est là où ça rejoint le troisième aspect qui, à mon avis, est plus le focus sur lequel on devrait essayer de penser en tout cas cette démobilité, et c'est pour ça que moi j'ai plutôt tendance à parler de proximité, c'est okay. Que je pense que c'est surtout sur les distances parcourues qu'il faut qu'on essaie de travailler, en tout cas pour essayer de limiter, en fait, par exemple, les impacts d'un point de vue consommation énergétique ou impact climatique sont beaucoup liés aux distances, c'est-à-dire que un trajet qui va être fait sur une courte distance à vélo va avoir pas vraiment d'impact, pendant qu'un trajet plus long en voiture, bah là, va être beaucoup plus impactant. Donc, si on veut réussir à passer à des modes de transport plus vertueux, il faut réussir aussi à limiter les distances parcourues. Et pour ça, il faut réussir sur l'aménagement du territoire, l'évolution des modes de vie, etc., à faire en sorte qu'on ait la possibilité de déployer en gros notre programme d'activité, avoir idéalement l'emploi pas trop loin de chez soi, mais aussi les lieux d'achat, les lieux de loisirs, d'activité, etc., à une échelle plus limitée en termes de distance pour pouvoir avoir moins d'impact.
Donc ça voudrait dire retrouver des centres-villes, parce qu'en ce moment on observe un petit peu la tendance inverse, des centres-villes qui sont désertés au profit de zones périurbaines par exemple. Donc ça voudrait dire retrouver des cœurs de ville avec pas mal de services finalement disponibles à pied ou à quelques kilomètres à vélo.
Oui, c'est ça. En tout cas, dans les tendances qui ont été dans le mauvais sens, dans le sens de l'augmentation des distances, il y a notamment, en effet, cet étalement urbain, cet éparpillement aussi. C'est-à-dire qu'on n'a pas, on s'est pas seulement étalé le long d'axes de transport en commun. En l'occurrence, on s'est éparpillé oui. Un petit peu partout. Donc, essayer de retrouver un peu en tendance inverse, mais en effet, déjà d'éviter que ces tendances-là puissent continuer, parce qu'elles sont toujours à l'œuvre, et plutôt essayer de voir à quelle échelle on peut reconstruire des proximités. Donc, c'est en effet les centres-villes qui puissent y avoir une certaine dynamique, mais dans certaines villes assez importantes, métropoles, etc. C'est pas uniquement dans le centre-ville, faut voir quelles sont les polarités qu'on peut avoir.
À l'échelle de quartier, par exemple.
À l'échelle de quartier aussi, pour certains services, pour certains commerces, etc. Parce que sinon, des personnes qui aujourd'hui habitent loin des centres-villes, aller jusqu'au centre-ville, ça peut impliquer des distances qui sont importantes. Donc, faut voir à quelles échelles on peut mettre quel type de commerce, quel type de service, etc., quel type d'activité. Mais en tout cas, c'est un axe qui peut être assez important pour aller vers des modes de vie plus en proximité, donc moindre distance. Et puis, quand il y a les moindres distances, il y a les moindres vitesses. Les deux vont un peu ensemble, mais historiquement, on a accéléré, on a été plus loin. Et si jamais on veut aller vers des moindres distances, faut aller un peu dans les deux sens inverses, c'est-à-dire d'aller vers des mobilités moins rapides, mais plus réalisées en proximité, et donc idéalement avec des modes plus vertueux aussi, quand on le peut, notamment la marche et le vélo.
Ok. Je te propose maintenant qu'on se projette dans un autre scénario un peu différent. Là, on était sur l'infrastructure de transport existante, et finalement, qu'est-ce que tu avais envie de faire ? Si maintenant, on se projette dans un monde où tout est à construire, qu'est-ce que tu aurais envie de faire ? Et ma première question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, enfin, est-ce que dans ton scénario, sachant qu'aujourd'hui, nos modes de transport, ils ont quand même été beaucoup conçus autour des énergies fossiles, si on se projette dans un monde où voilà, on recommence de zéro, qu'est-ce que toi, tu aurais envie de faire ? Et du coup, est-ce que ces modes, ils ont la même forme ?
Alors, c'est une projection qui est assez difficile, mais en tout cas, c'est presque une projection qui pourrait rejoindre un peu la situation qu'on avait il y a deux siècles. En tout cas, il y a deux siècles, on était essentiellement avec des mobilités liées à la marche. Après, ce qu'on peut y voir comme limite à ce type de mobilité, c'est qu'en termes d'évasion, d'ouverture au monde, ou ouverture plus large finalement à d'autres endroits du territoire, etc., qu'il pouvait manquer un certain nombre de de transport plus rapide pour pouvoir aussi, dans certains cas, bah, aller plus loin et puis profiter aussi de ce type d'échange-là. Et donc, si jamais on part de rien du tout, quelque part en termes d'infrastructure, pour aller à des vitesses et des distances plus importantes, ce qu'il faut faire en sorte, c'est que ce soit fait avec des modes de transport moins impactants. Et aujourd'hui, comme je l'évoquais, quand on est au-delà des distances du vélo, ce qu'il y a de plus efficace d'un point de vue environnemental, d'un point de vue carbone, c'est le train, et en particulier le train électrique, si on veut limiter les émissions et ne pas reposer sur les énergies fossiles. Donc je dirais que c'est une structuration du territoire et des déplacements de plus longue distance qui devrait essentiellement reposer sur ce type d'infrastructure-là. Et après, que les déplacements qui sont davantage faits en proximité puissent être faits avec des modes de transport plus sobre et plus vertueux d'un point de vue de la santé publique, tels que les mobilités actives avec la marche et le vélo. Et disons que ce serait ça les mobilités que je verrais les plus vertueuses et qu'il faut aujourd'hui aussi du coup en priorité développer quand on le peut. Mais la question, c'est qu'on arrive finalement, on est en tout cas aujourd'hui sur un système de transport, un aménagement du territoire qu'on hérite et qui n'est plus vraiment compatible avec ce 100% de marge vélo, transport en commun, notamment ferroviaire. Mais en tout cas, si on partait de zéro, ce serait ça quelque part qu'il faudrait réussir à développer comme type de mobilité. Après, toute la question, c'est à quel point on cherche à avoir beaucoup de déplacements de longue distance, à quel point on cherche cette vitesse, etc. C'est vrai que ça a été beaucoup une quête qu'on a pu avoir ces dernières années, ces dernières décennies. Aujourd'hui, on est presque en train d'en observer tous les inconvénients qu'il peut y en avoir avec ces consommations d'énergie, ces émissions qui sont importantes. Après, ça peut être un questionnement de se dire, même si jamais c'est avec des modes de transport qui sont plus vertueux, moins impactants, à quel point, savoir où situer le curseur finalement de cette hypermobilité dans laquelle on s'est lancé, à quel point c'est une bonne chose pour les rythmes de vie, pour les rythmes sociaux, pour développer des proximités, du lien social, etc. À quel point c'est une bonne chose d'avoir ces déplacements particulièrement importants, à la fois pour la mobilité des voyageurs, aussi pour le transport de marchandises, avec ces échelles extrêmement mondialisées qu'on a pu avoir. Si on redémarrait de zéro, en tout cas, faudrait se poser ces questions. Et c'est des débats de société, c'est difficile d'avoir une réponse tranchée. Il n'y a pas de seuil à partir duquel vraiment on bascule dans ce qu'il y a de bon ou de mauvais, mais en tout cas d'avoir ces questionnements-là.
Oui, bien sûr. Non, mais je pense que c'est important et tu poses les bonnes questions et c'est des choses qui se réfléchissent à l'échelle effectivement de société. C'est des débats éthiques et presque même philosophiques, en fait.
Exactement.
Écoute, on arrive bientôt à la fin de cet épisode. En conclusion, ce qui m'intéresserait, c'est de comprendre pourquoi, pour toi, la période dans laquelle on est actuellement, parce qu'on sent, là, parmi tous les sujets qu'on a évoqués, on était sur les questions philosophiques à la fin, mais aussi sur, finalement, ces nouvelles formes de mobilité qui se développent, notre rapport au transport et plus largement au voyage qui est questionné et à la mobilité. Pourquoi, pour toi, cette période, elle est particulièrement intéressante, peut-être avec ton regard de chercheur, et aussi pour des ingénieurs, des concepteurs, tu vois, qui se lancent aussi dans des projets. Pourquoi est-ce que c'est une période intéressante ?
Je dirais que c'est une période avec énormément de défis, des défis extrêmement forts, et ça peut être à la fois assez angoissant, ou ça peut devoir finalement le poids des responsabilités ou des enjeux qu'on a à supporter.
Moi, je prends le parti du verre à moitié plein ici.
Et en même temps, en effet, on peut voir finalement tous ces défis aussi comme une source de motivation, et très sûrement que si on n'avait aucun défi à relever, ce serait sûrement assez ennuyeux de savoir quelle peut être notre activité professionnelle, comment développer des modes de vie qui sont compatibles, quoi, ou en tout cas, si on n'avait aucun défi, quelque part, ce serait un peu plus ennuyeux. Donc on, en tout cas, on a ce côté aussi enthousiasmant de nouvelles formes de mobilité, notamment à inventer, de nouveaux modes de vie, d'évolution d'aménagement du territoire, à pouvoir réinventer pour des mobilités plus sobres, de nouveaux types de véhicules qui vont arriver, qui vont se développer, de voir quels peuvent être leurs usages les plus vertueux. Donc ce qui interroge finalement à la fois, en effet, par exemple, des ingénieurs peuvent très bien se retrouver dans ce type de défi, de pouvoir développer des véhicules qui sont plus sobres, qui sont plus durables dans le temps, etc. Et puis en même temps, de voir comment on connecte ça avec toutes les parties plus humaines, plus sociales, et de voir comment on connecte un certain nombre d'innovations sur la côté, le côté plus technique, technologique, tel qu'on a pu beaucoup le faire ou le mettre en avant par le passé, avec toutes les innovations sociales qui vont être indispensables pour avoir cette nécessaire sobriété dans les mobilités. Et c'est des défis qui sont extrêmement systémiques, assez complexes, etc., mais qui en font des questions très intéressantes aussi. Et en tout cas, c'est un environnement dans lequel il y a énormément de choses à faire, avec tous les défis que ça peut poser, mais c'est aussi des sources d'enthousiasme assez fortes de voir qu'on a énormément de choses à réinventer, il y a tout un tas de choses positives vraiment à aller chercher dans cette transition des mobilités pour à la fois répondre aux défis qu'on a et qui peuvent être assez oppressants ou de climat, etc., de ressources, mais aussi d'en profiter pour mieux répondre aux défis sociaux, aux défis de santé, donc à vivre en meilleure santé ou encore de qualité de vie qu'on peut avoir avec des mobilités, un aménagement du territoire, de nos espaces urbains, dans les villages, etc., qui soient finalement plus compatibles avec du lien social, davantage de végétation et une qualité de vie meilleure, avec un air moins pollué, moins de pollution sonore, etc. Et donc il y a tout un tas de bénéfices à aller chercher à ces endroits-là.
Super, écoute, on se quitte sur... Il y a énormément de choses à réinventer, allez-y.
Exactement.
Merci beaucoup Aurélien.
De rien, merci pour l'invitation.
Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et surtout, surtout, n'hésitez pas à me laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Merci beaucoup et à très vite.